RFI et France 24 présentent.
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous, pour tous, de RFI et France 24. De retour en direct, live de la station Afrique de l'île Saint-Denis à l'occasion des JO 2024. À cette occasion, nous n'avons pas pu nous empêcher d'inviter une légende du sport, triple champion olympique, triple champion du monde et triple champion d'Europe de handball, roi de la roucoulette. Il est réputé pour être un véritable artiste dans sa discipline. Que dis-je ? Ses disciplines, car depuis quelques années, il est jeune retraité et s'investit pleinement dans d'autres arts que sont la peinture et la mode. J'ai pour habitude de dire qu'il est un peu notre Pharrell Williams français. Messieurs, dames, juste pour vous, dans Légendes Urbaines, nous avons l'honneur d'accueillir monsieur Lucas Ballot. Coup de ça.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine.
Of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dog, Funky, yeah, the dot went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but don't lose your grip. Nine trizz ain't the years there for me to fuck up shit. So I ain't holding nuts back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back.
Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta.
What's my motherfucking name?
Tu peux chanter, Luc. C'est pas comme si cette chanson tu la connais pas par cœur.
Ouais, je suis pas bon en anglais.
Mais tout le monde fait du chewing-gum là-dessus.
Ouais, voilà.
Snoop, on était obligé de la passer quand même. Snoop et la flamme olympique hier à Saint-Denis, c'était quelque chose quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. Ça fait bizarre de le voir à Paris comme ça, aussi à l'aise en plus.
Ouais, en train de faire un seawalk
ouais,
et la flamme
ça,
olympique.
C'est ça, mais c'est bien pour nous.
Luc, bienvenue.
Merci.
Comment ça va ?
Ça va, un peu fatigué.
Ah bon ?
Ouais, hier ça a terminé tard.
La cérémonie. T'étais à la cérémonie ?
Non, j'y étais pas, mais je regardais à la télé comme tout le monde.
On va en parler. J'ai quelques questions à ce sujet. En direct de la station Afrique, je réitère, les JO, c'est une période symbolique pour toi, j'imagine. Tu as été médaillé d'or en 2008, 2012, 2020. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les JO ?
Alors les JO pour un handballeur, c'est la compétition la plus importante. Donc c'est celle qu'on attend pendant 4 ans. On n'a pas l'habitude, normalement c'est tous les 2 ans nous les compétitions. Donc là on l'attend pendant longtemps et quand on la gagne, ça change notre vie. On a un autre statut, on est reconnu que ce soit à l'étranger comme en France. Donc pour moi c'est la compétition qui nous a permis de grandir en tant que sportifs, des handballeurs je dis nous.
Plus qu'un championnat du monde.
Ouais, pour nous c'est plus important que
le championnat du monde. C'est notre
visibilité. Vu que c'est moins récurrent, et ben c'est plus important parce que ça a lieu tous les 4 ans.
Mmh. Ça a changé quoi dans ta vie ?
Ça a changé le regard des gens, je pense, surtout.
Et sur ton sport, d'ailleurs, parce que le handball, c'était pas... Ça met du temps à se populariser, d'ailleurs.
Ouais, le handball, c'est un petit sport. Moi, quand j'ai commencé, franchement, les gens ne connaissaient pas du tout le handball. C'était à peine professionnel, limite. Maintenant, on commence à avoir des joueurs avec des salaires intéressants, des situations professionnelles intéressantes. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était pas du tout pro. Et le fait qu'on gagne, à partir de 2006, on a gagné le premier championnat d'Europe de l'histoire de l'équipe de France. Et là, ça a propulsé. Après, on a enchaîné et voilà.
On se prépare comment pour les JO ? Ça doit être un mindset, ça doit être un état d'esprit, ça doit être une concentration, ça doit être une pression d'un autre monde. On est dans quel état en cette période-là ?
Pour les JO en France, je pense que la meilleure façon de se concentrer, c'est de ne pas être sur les réseaux sociaux, d'éteindre un peu son téléphone, parce que la pression, en fait, vu qu'on parle que de ça, elle doit être énorme. Après, perso, les jeux que j'ai joués, je les ai préparés assez facilement. C'était vraiment à la cool. Même si on était favoris, on y allait vraiment, à part en 2012 où on avait peur de perdre. Mais la plupart du temps, on y va vraiment avec beaucoup de confiance et ça se passe bien.
Ouais, je te trouve très moine bouddhiste, en fait, très zen tout le temps. J'ai l'impression que t'as jamais vraiment la pression. Comment tu gères ça et quel serait le conseil que tu pourrais donner aux plus jeunes ? On nous entend dans le monde entier, comme tu le sais. Il y a certainement plein de jeunes sportifs qui se préparent à des compétitions à l'heure où on se parle.
Bah, c'est propre à chacun. Moi, je pense que j'ai pas eu beaucoup la pression parce que quand j'étais jeune, j'avais pas forcément toute ma famille derrière moi quand j'allais à un match. Par exemple, j'avais pas mes parents qui m'emmenaient, donc j'avais pas peur de décevoir. Moi, ma pression, c'est quand j'ai peur de décevoir les autres. C'est pas l'adversaire. L'adversaire, il est bon, pas bon, on va jouer, on va se confronter. Mais la peur de décevoir, elle est grande. Je pense que c'est ça la pression qu'on peut avoir. Donc, en fait, quand j'ai commencé, c'était en mode je m'amuse. Et plus le temps passait, plus la pression venait, en fait. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir cette mentalité très jeune. Du coup, quand je commençais à avoir la trentaine et que j'avais de la pression parce que j'avais peur de me décevoir puisqu'on m'attendait, j'essayais de revenir un peu sur les bases les bases du début, en mode je m'amuse et on se prend pas la tête.
T'es un artiste, vraiment artiste peintre, c'est pas nouveau, tu peins depuis ton plus jeune âge. On parlera aussi de ta marque de vêtements, de LLAN, Luca Ballo 19. T'écoutes beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique et tous styles musicaux, du rap, du rock, vraiment de tout. Et la musique t'accompagne dans tes entraînements. Je t'ai demandé de choisir quelques titres, dont un, Dolce Camara, Booba, SDM. Pourquoi ce titre ?
Pourquoi ce titre ? Parce que Booba, c'est un artiste que je suis depuis toujours, depuis que je suis tout jeune. C'est l'artiste, je sais pas, qui m'a marqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps quand j'ai entendu ce morceau, parce qu'il a dû sortir quoi, il y a 5 mois, 6 mois.
Ouais, c'est ça.
J'ai pris une gifle parce que son couplet, pour moi, c'était le meilleur couplet que j'ai jamais entendu de Booba. Et sinon, j'aurais pu en choisir plein d'autres, des morceaux surtout qui m'ont accompagné. Parce que quand j'étais plus jeune aussi ça commençait à être un peu dur, parce que des fois c'est dur, le hand aussi, je parlais de la zénitude, mais j'ai eu des moments un peu durs. J'écoutais des morceaux de rap pour me rappeler un peu les sources. Donc, j'écoutais beaucoup de Booba pour me rappeler d'où je viens et que cette force elle a été puisée d'où je viens, donc la cité, Ivry-sur-Seine, tu vois, les galères qu'on peut trouver quand on grandit dans un ghetto, enfin un ghetto, voilà, une cité.
Bien sûr.
Et en fait, ces difficultés là elles te donnent de la force. Moi, en tant que sportif, sincèrement, ça m'a donné énormément de force. Parce qu'on est une sorte de communauté qui se soutenons et qui se relevons tout le temps dans les difficultés. Et voilà, du coup, quand j'écoutais ces morceaux-là, je repensais à ça. Ça m'a même
mettait
un petit rappel.
De là d'où tu viens et de là où tu es.
C'est ça.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi ? Parce que tu as eu des moments difficiles, effectivement, que tu viens d'évoquer. Quel a été le coup le plus dur ?
Le plus dur, c'est quand dans un groupe, ça se passe pas bien. Parce que des fois, ça se passe pas bien. Ça peut être avec un coach. Mm-hmm. Avec les joueurs, j'ai jamais eu de problème. Mais des fois, ça peut être des coachs. Par exemple, des coachs qui avaient pas vraiment confiance en moi ou qui aimaient pas ma façon d'être, ma façon de jouer. Et du coup, c'est le plus dur, je pense. Parce que t'as envie de, comme tout le monde, on a envie d'être accepté facilement. Et quand t'es pas accepté pour qui tu es, tu dois faire des choix. Et du coup, voilà, moi, mon choix, c'était de ne pas oublier d'où je viens et d'où je tirais cette force.
Mmh. Et aujourd'hui, tu es beau, tu es en Dolce Camara.
Je suis de l'ancienne Fédé, sans enseigne piégée, OG BG, OG BG, faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Je suis de l'ancienne Fédé, sans enseigne piégée, OG BG, OG BG, faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara.
Je descends du sang, je les viscères juste en bas de la cité. Devant moi, t'es Mimi, prends ton phone, insulte-moi. La technique Aroni, là, ce fort Asidor. Ce qu'il faut en 10 années, moi, ça me prend 6 mois. Cigare en chebou quand j'arrive sur scène. La saga, la cité d'Oursaga en chef, Sadja. Pourtant, ne crois même pas qu'on chôme sa job. Vient de la chaîne blanche, de la verte et du jaune savant. Le business est carré, la bac fédéron. On encaisse, on rit au nez des fédéraux. La mère a Riolo, le père a Riolo. J'arrive, on a franchi BG comme Lyota. Je fais la taille d'un Yeti, l'argent du refou, business en Utah. Sur le j'pay detail, les billets en soi. En Dolce Camara, dans costume en soi. Ils nous aiment pas, mais sont obligés de faire
avec. Booba, Fit, SDM, Dolce Camara. Nous ne pouvons pas passer le titre en entier, n'est-ce pas ? Mais il y a de sacrés punchlines dans ce titre. Voilà, du vrai rap game. Je rappelle d'ailleurs que Capadonna du Wu-Tang jouera ce soir à la station Afrique à partir de 19h. Ils sont d'ailleurs en balance. Alors on se parle en répétition, c'est quand même la classe mondiale de voir Capadonna en live quand même. Cérémonie d'ouverture hier, tu l'as regardé à la télé. Incroyable moment. Ouais. La Marianne qui a fait une prestation magnifique. Aya et la Garde Nationale. Philippe Catherine, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé en fait de cette cérémonie ?
Moi j'en ai pensé qu'ils ont grave géré. Mm-hmm. On les attendait tous.
Au tournant ?
Ouais, c'est clair. Mais je m'inquiétais pas, je savais que le show allait être bien. On bosse bien quand même, les Français, même si on est à l'heure dans leur gars, au final ça se passe bien. Le show, on sait faire. Ensuite, j'ai eu un moment je me suis dit, j'aurais bien aimé faire partie du spectacle, tu
quand
sais.
Même, hein.
Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de sportifs qui mériteraient en fait de porter cette flamme. Tu sais, le moment un peu juste avant de donner la flamme à Teddy Riner et Marie-Jo. Je me suis dit, tu vois, j'aurais kiffé faire partie de ces sportifs, mais en fait, tu prends tout le monde. En fait, on est tellement à avoir marqué cette génération-là. Tu sais, la génération après les enfants des premiers immigrés, on va dire.
Ouais,
tu sais,
bien sûr.
Y en a plein là qui auraient mérité d'être là. Donc ça m'a fait grave plaisir de voir autant de mixité aussi. Et voilà, après c'est...
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? Quel est le tableau qui t'a marqué le plus ?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu Aya chanter. Ah, j'ai kiffé. Et en plus, elle a chanté Dja Dja. Mm-hmm. Tu vois, elle a chanté son morceau. Et j'ai adoré parce que voilà, ça a mis une claque pour tous les trucs qui se sont dit avant. Et bah, voilà.
Ouais, ouais, c'est ça, parce que c'est ça la France,
ouais,
en réalité. C'est nous aussi la
c'est
France.
Ça.
C'est vrai que c'était hyper, hyper symbolique. Et finalement, quoi d'autre que le sport pour fédérer ? Je pense que le sport, c'est vraiment, on parle souvent du foot, mais là, c'est vrai que les Jeux Olympiques permettent aussi de mettre en avant les ponts que l'on peut faire entre êtres humains. Toi, tu fais aussi des ponts dans ta vie, le sport, nouvelle vie, la peinture. Et en plus, tu peins vraiment. Pendant toute la durée des JO, tu as des peintures, une série qui est dédiée aux grands sportifs. Il y a Mohamed Ali, on retrouve Teddy Riner, on retrouve des peintures juste incroyables. Raphaël Nadal, je crois aussi. Tu es exposé au Palais de Tokyo. Parle-nous un peu de cette expérience, parce que c'est quand même, entre peindre et être exposé au Palais de Tokyo, c'est quand même...
Ouais, en fait, le CIO, ils m'ont contacté il y a un an en me disant qu'ils voulaient... Il voulait marquer aussi la culture autour du sport, là, au Palais de Tokyo. Et en fait, au début, ils ne savaient pas trop l'espace qu'on allait avoir. Donc, quand ils m'ont donné la mission de faire des toiles, j'ai fait énormément de toiles. Au final, ils en ont retenu quatre grandes, parce qu'entre-temps, ils se sont dit, justement, pour faire participer tout le monde, ils sont allés chercher des artistes olympiens du monde entier. Donc, on est plusieurs exposés au Palais de Tokyo. Et du coup, les toiles que je n'ai pas mises au Palais de Tokyo, je les ai mises dans un autre lieu qui s'appelle l'Alcazar, qui est dans le 6e. C'est un resto.
Rue Mazarine.
Voilà, c'est ça. Exactement. Qui est justement aussi pas loin de tout ce qui se passe là autour des Jeux. Et pour moi, ça a été une façon de me trouver un objectif après les Jeux. Après, quand je dis après les Jeux, je veux dire après les Jeux 2021. Mm-hmm. Mais surtout après ma carrière, je veux dire. Après ma carrière, j'ai arrêté et en fait, j'ai pas l'habitude, moi, de pas avoir une compétition, de pas avoir un objectif. Donc là, ça m'a donné l'objectif de réaliser ces toiles. Donc là, je les ai livrées. Donc maintenant, tu vois, je les ai livrées il y a une semaine. Donc maintenant, j'ai plus d'objectif là.
C'est une pression, quoi. T'as plus d'objectif. Alors quand même, je suis sûr que
si,
te connaissant, à mon avis,
projets,
t'as deux, trois autres projets. Mais c'est quand même une sacrée victoire et une sacrée pression aussi de montrer son travail aux yeux du monde. Quand on est peintre, c'est quelque chose de très personnel. Et exposer, finalement, c'est aussi une pression.
C'est une... Je dirais pas que c'est une pression, j'ai pas peur de que ça plaise ou que ça plaise pas, parce que je pars du principe que il y a des, enfin l'art, enfin les goûts et les couleurs comme on dit, t'explique pas, ça se discute pas. Je peins depuis toujours, je peins depuis avant même de faire du hand, donc je pense que j'ai un niveau pictural qui est cool, donc je me dis que ça va plaire, voilà, je me mets pas trop la pression sur ça. Sincèrement, c'est que du bonheur, que du kiff. La pression, vous savez où est-ce qu'elle est ? Elle est plus dans... Est-ce qu'après le hand, je vais pouvoir en vivre ?
Mm-hmm.
C'est ça aussi. Parce que moi, j'ai envie d'en vivre. J'ai envie que ça soit mon métier. J'ai envie de faire ça tous les jours. Donc voilà, c'est ça la vraie pression.
Et tu as une marque de vêtements, LAN. Explique-nous. Tu vois, t'es hyper actif en fait, finalement. Tu fais plein de choses différentes.
Bah, pendant ma carrière d'handballeur, ouais, je voulais, pendant mon temps libre, je voulais exprimer un peu tout ce que j'avais dans la tête. Et surtout, je voulais m'habiller d'une certaine façon. Quand je suis arrivé, je suis parti en Espagne pendant 4 ans et je suis rentré en 2012. Et quand je suis rentré en 2012, je voulais m'habiller en oversize. Mm-hmm. Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et je me suis dit, bah, je vais faire mes propres fringues. Et c'est parti de là l'idée. Mais en réalité, j'ai mis au moins 5 ans, 6 ans avant à développer le truc parce que je dormais en fait.
Enfin, tu dormais entre quelques entraînements et 2-3 coups de pinceau. Je t'ai demandé de choisir un autre titre, Luc. Nous sommes à la station Afrique. Donc je t'ai demandé de me choisir un titre d'un artiste du continent. Et t'as choisi Wizkid, le titre Ghetto. Pourquoi ? Je te laisse faire le lancement.
Parce que c'est l'un des premiers artistes afro que j'ai découvert. Mmh. Voilà. Donc, et au-delà du fait que c'est l'un des premiers. Non, c'est pas vrai. C'est pas un des premiers que j'ai découvert. C'est un des premiers qui m'a fait kiffer sa voix, en fait. Mmh. Il a une voix pour moi qui marque. Et une façon de poser sur les morceaux que j'adore. Et c'est marrant parce qu'avec les autres artistes afro, j'ai plus de mal, tu vois. Et il y en a qui comprennent pas, tu vois. Par exemple, je dis que j'aime pas trop Burna Boy.
Il y en a qui m'embrouillent. Moi, j'arrête. Mais bien sûr qu'on va s'embrouiller tout de suite. Tu peux pas dire ça.
Et moi, je kiffe tellement Whisky que, tu vois.
Ah bon, j'aime beaucoup. Mais là, tu viens de dire une dinguerie. Mais Whisky, il est fort quand même, c'est le boss. Allez, c'est le choix de Lucas Malo.
2 seconds, everything done boss. The kind of love I get for you, now I'm out of my 2 cost. He asked me what in I love for life. I said, what in no go touch us? So, every day, nigga, see my mama smile. That make me the bumper. So, ooh, yeah. Call up, pick up, pick up, call up, pick up. Call one beat, I can call up, pick up, pick up, call up, pick up. Call one beat, I can call up, pick up, pick up, call up, pick up. Call jam beat, I can call up, pick up. Yes, pick up, call up, pick up, pick up. Ooh, yeah. Me say she like to dance a zonto, I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. Oh, yo. She say she give me ghetto love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh, for your matter, mo fo, 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 mo fo.
Wizkid, Wizkid, ghetto. Le titre de Lucas Malo. Whisky de VS Burna Boy.
Burna Boy aussi. Hein.
Ouais, tu... Et puis, bah, vraiment, hein, je rappelle que nous sommes en direct live de la station Afrique. Donc, nous entendons les répétitions, les balances de monsieur Capadonna du Wu-Tang. Voilà, c'est ça aussi le charme, mais c'est quand même la classe. Tu vois, lui aussi, il a une vraie voix. Il chante pas, mais c'est une légende vivante. Tu sais, Luc, on a un rituel dans Légendes Urbaines. Avant de te recevoir, évidemment, tu sais, très prochainement dans les studios à Issy-les-Moulineaux, les studios de France Média Monde, on a un rituel qui consiste à demander à notre invité de passer un message universel. Tu sais qu'on est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Quel serait-il ?
Ouais, tu me prends en surprise. très compliqué. Mais vu que j'ai mal dormi cette nuit, j'ai réfléchi aussi. J'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Je me suis dit que le message, en tout cas, que moi, j'aimerais inculquer et qui est difficile, c'est de prendre vraiment soin des gens qu'on aime et que c'est le plus important. Et des fois, on a envie de grandir, de percer professionnellement, tout ça, et on oublie vite les gens qu'on aime et on les néglige un peu parce qu'on c'est un peu acquis.
C'est vrai. Aimons-nous vivants. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça paraît... simple, mais voilà. La famille, nous, on vous donne rendez-vous. En fait, on va faire une petite pause avec l'équipe de Légendes Urbaines. On fait une petite pause, là, pour les vacances. On se retrouve à la rentrée. Vous savez, hein, comme l'habitude, paix, amour, lumière sur vous. Et puis, là, je passe le relais de la flamme olympique de RFI au grand Joe Farmer pour un nouvel épisode de l'épopée des musiques noires. Comment vas-tu, Joe ?
Ça va très bien. Ça s'est bien passé à la station d'Afrique ?
Ouais, super, on est au top, nous. On est vraiment au top.
Et donc, ce soir...
Sous la pluie, mais un peu de soleil dans nos cœurs.
Et puis, ce soir, le grand concert.
Ah mais ça va être incroyable, Capadonna, et la émission avec monsieur Lucas Malo,
très bien.
Légende aussi.
Donc tu me gardes une place.
Mais bien sûr, toujours dans mon cœur, Joe.
À bientôt.
On y va, toi.
À bientôt.